Bonjour à tous. Il y a un an et demi, j'ai fait un message à l'église de Montmélian, l'Essaimage. Et à la fin, Samuel me dit « Tu devrais refaire ce message à Chambéry. » Je ne l'ai pas encore fait. Mais je ne voulais pas que ce soit redondant. C'est-à-dire que les personnes qui avaient assisté au culte à Montmélian soient là présents et réécoutent un même message. Alors, j'ai profité des vacances où la plupart des gens ne sont pas là pour me dire que probablement la plupart n'étaient pas là-bas à Montmélian. Alors je crois, je me suis renseigné que pratiquement personne, si ce n'est peut-être les Razas, ils sont là, voilà. Mais personne n'était là, pas même ma femme qui fait l'école du dimanche. Alors donc je vais vous transmettre cette parole qui m'a été encouragée par Samuel. Et c'est sur les petites gens. On va prendre pour ça 2 Corinthiens au chapitre 8. Les versets 16 à 22. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle et dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. » Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Il y a quelque chose de bizarre là quand même. Je ne sais pas si vous avez noté quelque chose qui est un petit peu surprenant. Je vous laisse chercher. Personne ne trouve ?
Il n'est pas nommé.
Voilà.
Il n'est pas nommé.
Il n'est pas nommé. À deux occasions, l'apôtre Paul parle de ce frère dont il fait vraiment la louange. Et c'est quelqu'un de remarquable quand même, mais cette personne n'est pas nommée. Pourtant, donc, ce frère, c'est un exemple. Et Paul ne dit pas son nom. Alors, est-ce qu'il était timide? Est-ce qu'il se sentait indigne, insignifiant? J'imagine assez qu'il ait dit à Paul, « Écoute, si tu veux bien me citer dans ton livre, ok, tu le fais, mais surtout, tu ne dis pas mon nom. » Il y a comme ça des gens dans les églises dont la discrétion est telle qu'on ne sait plus le plus souvent qui fait les choses et ce qu'elles font. Alors il y a ceux qui s'occupent de l'entretien de l'église, de la décoration, du sel, d'un parrainage, qui font des visites sans forcément le dire, qui prient pour les autres, et là ils ne les mettent pas sur les haut-parleurs, qui soutiennent les missionnaires, bref, des gens qui n'aiment pas qu'on les regarde, et qui savent par contre que le Seigneur ne les oublie pas. Sans eux, c'est comme une maison sans décoration. Le décor semble souvent inutile, par contre, c'est ce qui fait le charme de la maison. Ça, c'est les Corinthiens, voilà. Alors, on a l'habitude de parler dans les prédications des grandes choses, hein, comme le témoignage, la sanctification, la piété, la prière, la méditation biblique, l'amour fraternel, des grandes choses, quoi, la persévérance, la grandeur et la puissance de Dieu. Toutes ces choses sont des bonnes choses et c'est des choses qu'il faut rechercher et honorer. Mais toutes ces choses auxquelles le chrétien aspire sont d'autant plus frustrantes qu'il n'y arrive pas toujours. Alors je voudrais quitter la stratosphère pour être un peu plus terre à terre aujourd'hui et un peu plus réaliste et peut-être plus proche de chacun d'entre nous. Les conflits qui règnent souvent dans nos cœurs sont parfois ce qui nous empêche d'être en paix et de progresser. Et ça vient comme une ambivalence. Cette ambivalence dont parle Paul quand il dit « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je ne veux pas. Ce que je hais. En effet, moi, je voudrais être à l'image de Christ, et pourtant je succombe si facilement à la tentation. Je voudrais être courageux pour témoigner, mais je crains les hommes. Je voudrais vivre dans la paix de Christ, et pourtant je suis mal dans ma peau, je ne me sens pas bien. Je voudrais servir à quelque chose, mais je suis bon à rien. Bon, c'est mieux que d'être mauvais à tout, hein. Je voudrais mettre un don au service du Seigneur, mais je n'en ai pas. Il y a ce constant rappel de la réalité qui s'impose à nous face à l'aspiration du cœur qui voudrait parfois habiter un autre corps. Quand on lit les ouvrages ou les articles de la vie chrétienne faite de victoire, de puissance, de paix, de bonheur, on se sent souvent frustré. Pourquoi ce n'est pas le cas pour moi? Et alors les questions fusent et les réponses avec. En fait, c'est parce que je ne suis pas un bon chrétien. D'ailleurs, je fais ceci ou cela, alors que je ne devrais pas le faire. Je ne témoigne pas assez, je ne lis pas assez ma Bible. Je ne suis pas comme les autres dans l'Église qui ont ceci et cela, ils ont tout réussi. C'est d'ailleurs une mauvaise chose que de se comparer aux autres. Il y a parfois, il faut le dire, dans la prédication de l'Évangile, aussi bien que dans certains ouvrages, bien des choses culpabilisantes qui exacerbent et idéalisent la vie chrétienne à tel point qu'on se trouve toujours en dessous du seuil normal de la vie chrétienne. Il y a d'ailleurs un livre qui s'intitule « La vie chrétienne normale » de Washman Nee. Je n'ai jamais pu le terminer. Pourtant, l'intention est bonne. Elle permet aux chrétiens d'aspirer toujours plus à se rapprocher de Dieu, à rechercher la stature parfaite de Christ, c'est ce que nous dit Paul, à rechercher une plus grande fidélité, une plus grande identification à celui que nous reconnaissons comme le modèle à suivre. Mais parfois, le but recherché n'est pas atteint et même décourage les âmes fragiles et pourtant désireuses elle aussi, de vivre cet idéal. La réalité est parfois cruelle et la vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves, parfois très dures, de la tentation, du doute, des désillusions, du découragement, l'insatisfaction, l'échec. Il y a aussi des grandes désillusions quand on croyait de l'Église au début, une Église quasi parfaite, une Église sainte, irréprochable. Les chrétiens, des exemples dans ce monde, un véritable amour dans l'Église. Et puis on se rend compte que c'est souvent loin d'être le cas. Les Églises et les chrétiens sont imparfaits, ils sont pétris parfois du monde. Soucis du monde auxquels se rajoutent les soucis de la vie chrétienne, des fardeaux lourds à porter. Il y en a qui craquent, qui retournent des fois dans le monde, ou simplement qui baissent les bras et qui se laissent aller. Alors mon propos n'est pas de juger, parce qu'on peut tous s'y retrouver. Hein. Proverbe dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Ce n'est pas non plus d'user de laxisme en disant, ben finalement, puisqu'on est comme ça, laissons courir. Hein. Il ne faut pas s'arrêter sur les faiblesses et les égarements, mais plutôt, je voudrais encourager, exhorter à tenir bon ceux qui fléchissent. D'abord, ce que nous vivons se vivait déjà dans l'Église primitive. Il suffit pour s'en convaincre de lire les épîtres de Paul aux Corinthiens. Chrétiens pétris de chair, mais combien aimés de Paul et du Seigneur. Paul leur dit, outre toutes les épreuves dont je suis l'objet, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible ? Non, les chrétiens corinthiens n'étaient pas meilleurs que nous. Ils avaient aussi leurs faiblesses, leurs problèmes, leurs travers. Il est avec nous, et alors pourtant le Seigneur était avec eux comme il est avec nous, par amour pour les pécheurs que nous sommes. Il n'est pas venu pour les justes, ni pour les bien portants, mais pour les malades, pour les estropiés de la vie. Il est venu pour toi qui te sens le plus petit dans l'Église, pour toi qui te sens inutile et sans capacité pour le service de l'Église, pour toi qui es déprimé, n'arrive pas à en mettre en pratique dans ta vie ce que tu connais être agréable au Seigneur. Mais il est aussi venu pour toi qui est rempli de dons, de zèle, rempli d'esprit, appelé à l'humilité par amour pour les faibles. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est venu pour nous tous, car tous nous avions péché et nous étions privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais nous avons été rachetés à un grand prix, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Mais on pourrait rajouter aussi, où donc est le sujet de se culpabiliser ? Il est exclu. Il n'y a plus d'esclaves ni libres, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de grands, pas de petits, des sensibilités différentes, des tâches différentes, mais une même valeur aux yeux de Dieu, car il a payé le prix de sa vie pour vous. C'est encore au Corinthiens chapitre 12 que Paul parle de l'œil, de l'oreille, de la main, organe noble s'il en est, mais aussi du pied, celui qui est sale. Car tous nous appartenons au corps, et en chacun son importance, sa fonction dans le corps. Il est dit, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Une sœur qui se sentait trop indigne de revenir à l'Église à cause de son péché me les confessa. Comment pouvait-elle se présenter dans l'Église, devant Dieu, en sachant que son problème était toujours là? C'était un blocage complet. Je lui ai dit que la marque du chrétien n'était pas d'être quasi parfait, mais de reconnaître son péché. C'est en cela que le Saint-Esprit parle. Peu après avoir lu la parabole du fils prodigue, elle se reconnut en lui. Elle déclara alors qu'elle retournerait à l'église, même si elle puait encore le cochon. Elle est revenue à l'église. Amen. Il était une femme qui se sentait bien inutile dans son fauteuil roulant après une grave maladie, alors qu'auparavant, elle était une jeune fille mondaine, voire frivole, bien que chrétienne. Elle aimait beaucoup aller au bal. Elle était devenue une favorite dans les milieux sociaux où la religion n'était pas mentionnée. Mais cette grave maladie, en 1821, l'a éloignée de ses compagnons et l'a amenée à ressentir le besoin d'un sauveur personnel. Vers cette époque, le révérend César Malan de Genève, qui était en visite à la résidence de son père, lui a demandé si elle était en paix avec Dieu. Pendant le repas, cette jeune fille perdit le contrôle d'elle-même et éclata en violent accès de colère, râlant contre Dieu qui l'a clouée au fauteuil et contre sa famille. Mais quelques jours plus tard, elle a appelé le docteur Malan et s'est excusée, disant qu'elle voulait nettoyer sa vie afin de devenir chrétienne. Malan a répondu, « Viens tel que tu es. » Et elle a consacré sa vie à Jésus-Christ ce jour-là. Une lettre de Malan lui dit, « Chère Charlotte, coupe le câble. Il faudrait trop de temps pour le défaire. Coupe-le. C'est une petite perte. Le vent souffle et l'océan est devant toi, l'Esprit de Dieu et de l'éternité. » Dans sa tristesse, elle a écrit un poème sur son état de dépendance totale. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » On chantera tout à l'heure ce cantique. Ce poème écrit par Charlotte Elliott, transcrit en chant, fut chanté dans les campagnes d'évangélisation partout dans le monde, et en particulier dans les campagnes de Billy Graham, amenant au Seigneur des milliers de personnes répondant à l'appel à venir à Dieu telles qu'elles étaient. Si petite que soit notre tâche, elle est importante. Et même s'il n'y a pas de fonction, la seule présence au culte est un encouragement pour les autres. Il en est des personnes qui, sans jamais être reconnues du public, petites parmi les petites, que le Seigneur utilise néanmoins. Pas toujours de façon évidente à nos yeux, mais peut-être à notre insu, dans la discrétion ou la pudeur. Qui n'a pas demandé au Seigneur plus d'une fois de lui ôter cette écharde dans la chair qui fait mal et qui rappelle chaque fois sa faiblesse? Le Seigneur répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. » Il y avait une autre paralytique qui se sentait bien inutile. Que pouvait-elle faire clouée sur son fauteuil? Devant son bureau, elle a pensé que peut-être elle pourrait écrire à des prisonniers de la prison juste à côté. C'était à peu près tout ce qu'elle aurait pu faire. Pendant 2 ans, elle s'est attelée à écrire à tous les prisonniers. Mais jamais, jamais, elle n'a reçu un retour. Pas un mot de remerciement, pas une lettre, rien. Pourtant, elle leur parlait de l'amour du Sauveur, de la grâce de Dieu, de sa bonté. Mais rien. Alors elle a pensé que les prisonniers avaient vraiment un cœur insensible, dur, irrémédiable. C'était des ingrats. Alors dépitée, elle a décidé d'arrêter au bout de 2 ans. À quoi bon? C'était forcément inutile. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu une lettre officielle avec le tampon de l'administration pénitentiaire, qui lui demandait s'il lui était possible d'envoyer dorénavant ses lettres sur du papier plus épais, parce que les prisonniers ne cessaient de transmettre les feuilles, et tout le monde les lisait, et tout le monde attendait ses lettres avec avidité, parce que ça leur donnait de l'espérance. Il était une autre femme qui passait inaperçue dans l'église. Pas de dents bien visibles, pas d'instructions, discrète, elle se contentait de balayer et d'entretenir l'église. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle aussi, elle aurait voulu être comme celui-ci ou celle-là, parler aussi bien que les autres. Mais personne ne remarquait son rôle. Personne ne la remerciait. Un jour, elle est tombée malade. Elle n'a plus balayé l'église. Il ne s'est pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il y avait de moins en moins de personnes dans l'église. L'église était sale, Et son rôle, donc, avait autant d'importance que celui du pasteur. Un petit garçon mal habillé, échevelé, sale, une sorte de Gavroche, un garçon des rues, se promenait un jour sur une plage. Il croisa un peintre qui l'interpella. « Viens par ici, je suis peintre et je voudrais te peindre sur un tableau avec ce fond-là, la plage et ses rochers, ce sera formidable. Reviens demain, j'amènerai un tableau et mon chevalet et je te peindrai. » Le petit garçon tout joyeux rentra chez lui. « Maman, maman, j'ai rencontré un peintre, il veut me peindre, tu te rends compte ?» La mère, « Ah, c'est formidable, mais tu ne vas pas y aller comme ça !» Donc le lendemain, elle le lave, elle lui coupe les cheveux, elle le peigne, elle lui met de beaux habits, tout ça. Et le petit garçon, quand il va à la plage, le peintre ne l'a pas reconnu. Et il lui dit, « Mais je voulais te peindre tel que tu étais. Maintenant, tu ne m'intéresses plus. » On n'a pas besoin de maquillage devant Dieu. Il nous veut tel que nous sommes. Le Seigneur se sert d'hommes et de femmes sans envergure, sans prétention même, sans ambition, si ce n'est d'être avec le Seigneur. Ceci dit, il ne faut pas cultiver sa faiblesse, bien sûr, ou la médiocrité, mais être plus proche de Dieu. Plutôt, ne pas compter sur ses propres capacités, mais sur celles de Dieu. Paul dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir autre chose que... concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Paul ne se faisait pas d'illusions sur lui-même, ni sur les autres. Jacques dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Vous sentez-vous inutile, sans force? Alors glorifiez-vous de ce que Dieu vous a élevé jusqu'à lui dans sa gloire. Il ajoute que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. As-tu un don, des capacités? Alors glorifie-toi de ton humiliation, car c'est Dieu qui donne à chacun comme il l'entend, et parfois il ne donne pas encore, parce que ce n'est pas le moment. Peut-être utiliserons-nous encore les choses mal, ce qu'il nous donnerait. Vous savez, tous ceux qui se glorifient de toutes leurs capacités que Dieu leur a données, de tout ce que le Seigneur fait au travers d'eux, ne sont pas les plus utiles au Seigneur. Ils reçoivent la louange des hommes, mais pas de Dieu. Personnellement, je préfère celui qui dit « Je ne suis capable de pas grand-chose ou de rien » que de celui qui me dit « Fou, j'ai fait tout ça pour le Seigneur. » Celui-là, il a déjà reçu sa louange. Le premier est plus utile au Seigneur car il se place sous sa dépendance. Il faut savoir de toute façon se reconnaître serviteur inutile. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Paul précise, seulement faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et encore, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Celui qui mange, c'est-à-dire le terre-à-terre, le charnel, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui jeûne, c'est-à-dire le spirituel, le super-chrétien, c'est pour le Seigneur qu'il jeûne. Et il rend grâce à Dieu. Qu'importe tout cela, qu'importe si vous ne faites pas grand-chose, mais fais-tu une œuvre, c'est très bien. Et c'est le Seigneur qui t'a donné de la faire. Rends gloire à Dieu. Ne fais-tu point d'œuvre? Rends gloire à Dieu, parce que tu crois en celui qui justifie l'impie, et ta foi t'est imputée à justice. Dans le film Bilbo le Hobbit du Seigneur des Anneaux, je pense que vous connaissez, Gandalf, donc c'est lui, dit « On croit qu'il faut un grand pouvoir pour chasser le mal ». Mais ce sont souvent les petites choses faites par les petites gens ordinaires, comme la bonté, le courage, la fidélité qui le font. Proposez au pasteur ou au conseil pastoral ce que vous savez pouvoir faire. Par exemple, priez chez vous une heure dans la semaine pour les gens de l'église, ça peut se faire, mais dites-le. Rendre visite à un malade, dites-le. Confectionner des objets ou de la nourriture pour des personnes dans le besoin, faites-le. Écrire un petit mot à des personnes pour les encourager, faites-le. Aider au nettoyage des espaces verts de l'église ou le ménage, simplement se mettre au service de l'église avec de la bonne volonté et en étant positif. Avec cet esprit-là, ce n'est pas vous qui le ferez. C'est le Seigneur qui le fera en vous en temps voulu. Mais aussi votre simple présence est aussi un encouragement pour les autres, car c'est l'expression de l'amour du peuple de Dieu que les autres reçoivent. Recevoir votre présence peut les rendre heureux. Un simple sourire accueillant peut suffire, et la joie vous revient en retour et vous rend heureux. Ne croyez pas qu'en venant ici pour rien, vous n'allez pas recevoir quelque chose et vous ne donnerez rien. Si vous venez, vous donnez de votre amour aux autres et vous participez à la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, c'est un don de Dieu. Ma femme à côté, et on ne s'était pas concerté avant la préparation, elle est en train de faire quelque chose à l'école du dimanche, là, et elle parle de la coccinelle. Donc j'ai piqué son truc. Hein. C'est un insecte qui est insignifiant. Et pourtant, il est utile à la nature. Vous savez que la coccinelle nettoie les jardins des pucerons inutiles qui détruisent les cultures. Elle s'appelle la bête à bon Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je l'ai appris hier. Allez, je vous le dis. En l'an 1000, un homme condamné à mort pour meurtre, à avoir la tête tranchée, mais prétendant être innocent, a dû son salut à une simple coccinelle. Celle-ci se posa plusieurs fois sur son cou, alors que le bourreau tentait de la chasser en vain. C'était à cet endroit qu'il devait trancher la tête. Comme elle y est revenue plusieurs fois, le roi Robert II vit là une intervention divine et décida de gracier le prisonnier. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut appréhendé. Cette histoire s'est très vite répandue et la coccinelle fut portée au rang de porte-bonheur. Et c'est pourquoi il ne faut pas l'écraser. Tu es utile pour Dieu, dit la coccinelle. Au Moyen-Âge, on demanda un jour à un ouvrier dans un chantier qui cassait des cailloux ce qu'il faisait. Il répondit : Je construis une cathédrale. Il savait qu'il n'était qu'un maillon d'une chaîne. Et il n'était pas seul, mais son rôle était essentiel. Alors, quel que soit votre état ou vos sentiments sur cet état, vous pouvez être utile à Dieu. Il suffit simplement de le vouloir et de vous le rendre disponible. Et c'est l'œuvre que Dieu fera en vous. Amen. On va chanter justement le cantique, là.
Christophe.
Après, on partagera la sensation.